d'une forme qui se révèle, je crois, à la fois riche pour les participants et apparemment pour les lecteurs, puisqu'il s'avère que c'est une collection qui marche, comme on dit, hein, c'est-à-dire qui a trouvé ses lecteurs, de fait, où les livres s'épuisent relativement vite et où les choses sont rééditées, y compris à l'étranger, alors que la question des traductions étrangères est une question assez complexe. Et on connaît en général la difficulté à faire traduire des ouvrages collectifs, précisément, qui sont rarement traduits. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a donc quelque chose qui, de ce point de vue-là, a trouvé son lecteur, ses lecteurs. Et je prends une forme, par exemple, qui est devenue, de ma part, un peu préférentielle, parce que je la trouve assez vecteur des choses. C'est se servir d'un texte de base. Et nous l'avons fait à deux reprises jusqu'à présent, avec un volume qui s'appelle « Sexualité infantile et attachement », qui paraît sous le nom de Daniel Vidlocher, et un volume qui s'appelle « Transfert et état limite », qui paraît sous la double direction de Caroline Thompson et la mienne. Ces deux volumes ont été conçus après un temps de travail collectif, où nous nous sommes donné un texte commun. Dans un cas de figure, c'était un texte de Daniel Vidlocher, qui ouvre le volume, et la totalité des autres auteurs sont des gens qui viennent discuter, qui viennent parler, pas au sens de, encore une fois, du thèse contre thèse, mais qui viennent comme cela soit accompagner le texte, soit le discuter, soit le critiquer, etc. Et même chose avec Transfert et état limite, où cette fois c'est un texte d'un auteur aujourd'hui disparu, Margaret Little, qui fait état de son analyse avec Winnicott, qui rend compte de son analyse avec Winnicott, et nous avons repris ce texte de Margaret Little en demandant à un certain nombre d'auteurs, Pierre Fédida, René Roussillon, etc., de Michael Parsons, et ainsi de suite, un certain nombre d'auteurs de venir comme cela discuter de ce texte. Ce qui fait qu'il y a, me semble-t-il, et en tout cas ça semble bien être reçu aussi comme cela dans le meilleur des cas, il y a de fait, si l'on peut dire, une rencontre que contraint le texte commun, qui fonctionne comme une sorte d'argument et qui permet de construire les volumes en question. L'autre aspect, un petit peu, c'est dans le fond un privilège des textes courts. Court n'a pas de nombre de pages, bien sûr, mais peut-être cette idée aussi que, je prends les textes de Freud, bien sûr il y a 20 volumes dans les œuvres complètes, certes, mais dans le fond 20 volumes de textes brefs, la plupart du temps, quelques textes longs, Psychopathologie de la vie quotidienne, Le beau d'esprit, quelques pavés, très peu dans l'œuvre, essentiellement dans le fond des textes parfois d'ailleurs très brefs, quelques pages, et ça me semble, non pas qu'il faille prôner à tout prix le texte bref, c'est pas cela, mais cela me semble dans le fond assez en phase avec peut-être quelque chose de l'expérience analytique. Je reste pour ma part assez convaincu qu'on peut donner à entendre, qu'on peut faire comme ça saisir et toucher quelque chose du cœur de l'expérience analytique à partir d'instantanés de la vie ou de la situation analytique. Parfois juste une phrase peut comme cela par l'étonnement qu'elle provoque, par l'étrangeté qu'elle suggère comme cela et qu'elle mobilise, peut tout à fait à elle seule être organisateur d'un écrit et transmission de quelque chose de la situation analytique. Bon, et je crois que les textes brefs, si bien sûr il ne s'agit pas d'un texte bref ne veut pas dire bâclé en aucune manière, hein. Mais le bref et l'incisif, dans le fond, me semblent peut-être plus à même de pouvoir restituer quelque chose du vif, du présent, transférentiel dans la circonstance de l'expérience analytique, que des pavés dont il faut quand même dire qu'un certain nombre d'entre eux nous tombent des mains, tant la psychanalyse a abusé, à l'évidence, bien souvent de la langue de bois. Voilà donc un peu le espèce de projet, c'est-à-dire quand on est à la fois, comme je le suis, évidemment pas le seul, heureusement, très attaché à la psychanalyse en tant que telle, au cœur de l'expérience analytique, à sa reproduction pour le coup, à sa survie, à son maintien, il est évidemment absolument indispensable en même temps de trouver la manière d'en restituer quelque chose, d'en écrire quelque chose et de conserver aussi ce lien avec un public au-delà des seuls analysants. Je crois que c'est quelque chose de nécessaire, c'est sans doute aussi tout simplement quelque chose de nécessaire au travail de pensée de l'analyste. Bon. Indiscutablement, on peut être analyste sans pour autant écrire la psychanalyse, certes, mais en même temps, je crois, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, le fait d'écrire la psychanalyse participe de mon travail d'analyste, c'est-à-dire participe d'un travail de pensée. Je ne pense pas qu'on puisse être psychanalyste sans travailler avec les patients en dehors de leur présence. Qui est un temps tout à fait essentiel. La pensée, je dirais, l'analyse et la pensée des patients en dehors des moments de l'analyse elle-même, et je crois un moment qui fait tout à fait partie du travail de l'analyse, et que l'écriture est bien entendu un des lieux possibles, évidemment pas le seul, mais un des lieux possibles de ce travail nécessaire. Voilà peut-être les quelques premières remarques que je pourrais faire, si... étant volontiers prêt à discuter avec vous des questions qui pourraient vous venir.